Bonjour, je suis Bob.
Et bonjour, je suis Ali.
Bienvenue dans l'appel de Cthulhu.
Bonjour et bienvenue dans l'appel de Cthulhu, votre podcast club de lecture âge basavonné, où chaque mois nous nous téléphonons pour nous
non,
demander.
Non, mais du coup, t'es moins joyeux, tu vois.
Cthulhu, parce que ça a remonté cette sauce. Cthulhu, et où nous prenons le temps de décrypter un classique que nous n'avions pas encore eu la chance de lire. Comme d'habitude, j'ai Bob qui fait des voix à côté de moi. Salut Bob.
C'est toujours le même soir, alors du coup, moi je fais toujours autant de voix chaleur.
Il y a un jeu de combat Bob l'éponge qui va sortir bientôt, figure-toi. Tu sais que Nickelodeon All-Star Battle, incroyable.
Fascinant.
Et moi, je suis Ali. Et on est toujours là. Alors, on enregistre à la suite du dernier. Hein. Vous l'avez dit, vous avez révélé le poteau rose.
Ouais.
Donc, on est déjà.
Pas de secret entre nous.
On est déjà bien chaud. Le pastis coule dans tes veines.
Hein. Eh, mais un tout petit peu. Je l'ai fait qu'un tout petit peu. Là. Il m'en reste encore une golaille et on sera bien.
Et le seum coule un peu dans les miennes parce que il fallait que je remplace, fallait que je fasse des trucs très tard en urgence pour le travail et c'est, j'avais pas envie.
Mais c'est triste. Mais c'est fini. Et là, t'es tranquille.
Je suis presque en vacances. Je suis en vacances. Quand vous écoutez ça, je suis en vacances.
Tu es en vacances, comme ça.
Pourquoi je prends la voix de Papa Ours, on ne sait pas.
Je sais pas, mais parce que t'avais envie d'imposer d'autorité le fait que tu étais en vacances.
Bon, on est probablement en août. Voilà.
Quand vous écoutez, on ne sait pas quel temps il fera dans un mois, mais en ce moment, il pleut.
On ne sait pas combien il faudra d'autorisation pour aller à la piscine, mais voilà. Tout ça pour vous dire qu'on va encore une fois parler de livres pendant une petite heure avec vous
mais
aujourd'hui.
C'est incroyable.
Et
nous, on parlerait de livres.
Ah bah ça nous arrive, hein, c'est 29 fois qu'on le fait.
Mais ouais.
30 en comptant le pilote, tu vois, c'est ouf.
Mais c'est dingo. Mais alors du coup, on va commencer en septembre avec l'épisode 30, mais c'est trop beau.
C'est fou. Il faut qu'on fasse un truc incroyable. Il faut qu'on ait une fanfare. Il faut qu'on ait. Non, on va juste faire un épisode normal de rentrée et être content de se retrouver.
Eh bien, déjà, il faudra qu'on choisisse entre temps ce qu'on veut lire parce qu'on l'a pas fait.
On l'a pas fait. On le fera peut-être.
On
fera peut-être une petite pause pour dire ce qu'on a fait. Ce qu'on va choisir. On va lire aujourd'hui L'homme est un grand faisant sur Terre.
De Hertha Müller.
De Hertha Müller. Voilà. Déjà, les accents racistes, tu as le droit. Tu vis dans le 54. Tu n'es pas si loin de ça, de l'Allemagne. Même
après,
si...
voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais que je te dise ?
On va partir surtout chez les Allemands de Roumanie aujourd'hui, cette minorité allemande méconnue qui a vécu sa meilleure vie sous Ceausescu en se faisant persécuter, déporter, vivre dans des conditions terribles. Enfin bref, c'est un roman très joyeux dont on va parler, qui va parler d'une famille qui cherche à émigrer en Allemagne.
Ça vous met une patate.
Sur fond de villages déshérités, de prostitution. Voilà, c'est une vraiment ça met la
tu
met
spoil
la pêche,
tout, tu expliques tout, c'est mal.
Bah il fait 128 pages, donc si je la quatrième de couverture, j'ai déjà lu la moitié du livre. Donc
c'est ça.
Enfin bref, on vous en parlera un petit peu plus tard. Vous allez voir, on a pas mal de choses à en dire. Mais ce mois-ci, qu'as-tu lu ?
J'ai lu Yacaré Hotline de Luis Sepúlveda.
Yacaré Hotline, on dirait un nom de tube de l'été, mais
n'est-ce
non,
pas
c'est toi qui reviens à Sepúlveda, comme tu t'y étais engagé.
Oui, absolument, et c'est surtout qu'il est court aussi, il fait 128 pages. J'avoue que
c'est le moment des 128 pages. Bientôt, ça donnera une émission pour chroniquer des BD, des albums en 48 pages de gags. On va faire l'élève du cobu. Non, non,
oui,
128,
bah, écoute,
mais
non,
on fait avec le temps
voilà
qu'on a. Et,
exactement,
écoute,
et là, je savais que je ne pouvais pas faire autrement. Et en plus, c'est Sepúlveda, tu tournes bien les pages. Donc du coup, je me suis dit, vas-y ma cocotte. Alors, attends, je m'éloigne parce que je repose le verre. J'ai reposé le verre, bonsoir. Donc, alors, c'est en faisant une petite recherche comme ça que je me suis rendu compte de, parce que tu vois, je reprends les choses. En fait, à la fin des années 90, Sepúlveda, il offrait chaque été une histoire feuilleton en 6 épisodes aux lecteurs et lectrices du journal espagnol El País. Et là, ce sont deux de ces histoires policières, Yacaré et puis Hotline, ok ? Mais ça s'appelle Yacaré Hotline, parce qu'il n'y en a pas une pour aller plus que l'autre, tu vois. Et moi, je ne savais pas avant de le lire, ce bouquin, tu vois. Et c'est en faisant des recherches que j'ai vu ça. Et alors, c'est rigolo ! Parce que moi, je m'étais justement fait la réflexion, juste au sortir du truc, tu vois, j'étais « Oh, mais c'est dingue, on croirait Cold Case, en fait !» Il y a une intrigue policière.
C'est rigolo.
Mais oui, il y a une intrigue policière, tu sais, ça coule et tout, ça te fait quand même tressaillir, t'es un petit peu, t'es pris dans le truc, tu vois, mais c'est assez court et intense. et ça révolutionne rien, mais toi, voilà, ça reste quand même en arrière-plan, ça reste dans la tête. Je l'ai lu il y a 15 jours et je m'en souviens, tu vois.
Ah, bien.
Ouais,
T'as vu, on place la barre.
Ouais, complètement. Non, mais c'est pour dire si le bouquin, il est bien ou pas, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Et non, c'est parce qu'en fait, j'ai même été déçue que ça se finisse aussi vite. J'aurais bien voulu en avoir d'autres, en fait, des histoires, parce que c'est Poulveda, il est énorme. Et là-dedans, tu vois, il utilise... son style à lui va super bien en tant que pour le type policier parce qu'il utilise les archétypes du genre. Mais il utilise en fait un enquêteur chilien pour l'enquêteur chilien, je crois, c'est pour Yacaré, et un inspecteur mapuche, donc c'est les habitants autochtones du Chili.
Alors on dit mapuche, je pense.
Ouais, mais moi
et
je trouve que mapuche,
on dit même pas comme
j'ai
dit, c'est mapuche. Mais mapuche.
C'est les mapuches. Mais non, mais tu sais, après moi ça me fait les mapuches, ça me fait le prononcer comme ça, ça me fait penser à papuche, et papuche ça me fait penser aux mignons.
Voilà. Okay.
Tu sais, les créatures jaunes, la machin et tout.
Je
voilà,
sais
donc,
ce que c'est, un mignon, c'est bon. C'est...
Bah, peut-être que tout le monde.
Non, c'est vrai
pas,
que toi, t'as encore un compte Facebook, donc t'en vois plus que moi.
Okay. Voilà. Non, j'ai un bébé, et voilà, et papuche.
Et c'est
voilà,
un mignon.
Toi de pied, Nutella. Voilà, donc ma puche. Désolée si je froisse des gens avec ma prononciation, vraiment, c'est. Je suis désolée.
Non, mais on va pas épiloguer là-dessus, hein, allons-y. C'est une tribu, de toute façon,
voilà.
Une tribu amérindienne.
Voilà. Et donc, comme il utilise en fait ces types de personnages, bah, ça casse les archétypes, les fameux archétypes du privé ou du flic qui se noie au fond d'une bouteille de scotch. Mais on a quand même l'ambiance malgré tout, un petit peu dark, des gars un peu torture, un peu sur la touche, un peu à côté, tu vois, mais qui sont quand même super performants. Et comme c'est un roman, enfin c'est des feuilletons, et ben ça fait très télé. Et comme c'est écrit. Comme c'est écrit par Sepúlveda, donc un super conteur, eh ben, ça fait des chocs-pics.
Ouais, c'est un mélange entre un conte et un feuilleton, quoi. Vraiment un feuilleton télévisuel, donc c'est super cool.
Franchement, c'est nickel pour l'été. Et ça tombe bien parce que ça avait été écrit pour l'été. Et du coup, ben, moi je vous le dis, c'est génial même 20 ans plus tard. Alors, que je vous explique. Et, ben, alors, vraiment, ça se lit super vite, alors n'hésitez pas. Yacaré, ça parle de la maroquinerie italienne, ok. Avec un enquêteur des assurances suisses, donc le fameux chilien qui enquête pour les assurances suisses pour savoir parce qu'il y a des morts bizarres et notamment un petit parrain de la mafia italienne qui a fait qui meurt bizarrement et qui a fait un testament qui a fait une assurance vie et qui lègue toute son assurance vie, 1 million, celle-là, oui, juste 1 million, mais à un monsieur qui serait dans la forêt, la jungle, tout ça, et qu'on sait pas qui c'est. Alors, pour éviter de payer ça, il faut trouver. Ah, c'est quoi l'embrouille? Voilà.
C'est quoi l'embrouille? Qu'est-ce qui se passe ici?
Voilà. Et avec Hotline, ça parle de l'impunité des militaires chiliens, puisque à l'époque, comment qui s'appelle le monsieur là, qui était un petit Pinochet?
Hein, Pinochet, voilà. Le dictateur. Voilà.
Le dictateur, voilà, tout à fait. Donc ça parle de l'impunité des militaires chiliens et de téléphones roses, avec des téléphones qui sont toujours attachés à la prise murale.
La hotline.
Mais voilà, la hotline. Et c'est énorme, franchement. C'est des histoires qui coulent bien. Les pages, elles tournent toutes seules. Et c'est vraiment chouette à lire. Ça, bon, voilà, très peu de pages. Tu voyages vraiment. Tu vis une histoire. Et les personnages féminins, parce qu'ils sont secondaires, mais malgré tout, ils ont une place importante. Ils sont pas que des prétextes au sexe. Ils le sont quand même, mais bon, on est dans les années 90, ok. Et quand même, pour les années 90, les nanas, elles étaient quand même bien travaillées et elles ont... c'est pas juste la fille d'eux, c'est pas juste la nana qui tient le taxi, quoi. Il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière, tout comme il y a une histoire derrière chaque personnage principal. Et du coup, je dirais qu'ils sont à égalité. Voilà, donc Louis, t'es balèze, mon pote. T'es fort. Et si
bravo.
Vous voulez en savoir plus sur lui, vous n'hésitez pas à réécouter l'appel de Catulle numéro 20. Vu
si
qu'on
vous
y parle.
Vous voulez en savoir plus sur Louis.
Petit blagueur.
Alors là, je suis un petit blagueur, pouet pouet.
Et donc oui, parce qu'on y parle du vieux qui lisait des romans d'amour.
Et qu'on avait beaucoup aimé, on le rappelle.
Exact. Voilà. Moi, franchement, je kiffe Sepúlveda. Je vais essayer d'en lire d'autres. J'avais lu le truc du chat, là, le chat qui rit ou je sais plus trop quoi, machin, là, avec des poissons et une mouette. Mais
c'est littéralement, ça doit être le titre exact du livre. Le chat qui rit, je sais plus quoi, avec des poissons et une mouette par Luis Sepúlveda.
Attends, mais tu rigoles, mais si tu me laisses deux secondes, attends, je vais te le retrouver.
Non, non, mais moi-même, je suis pas capable de le retrouver là.
Attends, c'est Sepúlveda, mouette, chat. Donc, histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, ok ?
Déjà, j'étais pas loin.
Voilà, hein ? Voilà, moi non plus. Et donc, voilà, voilà. Mais c'était pas pareil, je dis, c'est pour les enfants, mais oui, c'est super bien, mais ça m'a pas happé de la même manière. En attendant, je vois que toi, tu as lu un truc forcément qui est très intéressant par rapport à notre... hein ?
Ah, voilà, et tu sais quoi ?
Non.
Eh ben moi aussi, je suis sur un écrivain chilien.
Oh, punaise ! Alors, dis-moi, Zali, qu'as-tu lu ?
Eh ben moi, je suis sur Cochrane versus Cthulhu. Voilà, ça est, on n'a jamais chroniqué un roman avec Cthulhu dans le titre depuis qu'on a commencé. Bah,
mais
dis
grave,
donc.
Mais c'est impressionnant. Il faudra aussi que je trouve un truc. Mais en même temps, j'ai quasiment lu tout Lovecraft.
Ah bah écoute, bah oui, mais bon, il y a les continuateurs de Lovecraft, il y a tout ce qui est inspiré. Lovecraft est dans le domaine public, et d'ailleurs ça permet d'écrire des trucs comme Cochrane versus Cthulhu, donc
vas-y, parle-nous-en, c'est formidable. De Gilberto.
Alors, de Gilberto Villarroel, qui était un auteur dont je n'avais absolument jamais rien lu.
Moi non plus, je sais voilà, même pas qui c'est parce que je suis une ignarde.
Ouais, mais non, en fait, là, je crois qu'il est vraiment, on est vraiment sur quelqu'un qui est très très peu traduit en français. Ah. C'est un écrivain relativement jeune, enfin relativement jeune, ça fait pas si longtemps que ça qu'il écrit. Et il est connu notamment pour sa série de Lord Cochrane. Lord Cochrane.
Ça dit quelque chose.
Alors, c'est un, il imagine, en fait, c'est un inventeur qui a réellement existé, Thomas Cochrane, qui est réinventé dans le monde de. C'est un héros de la Royal Navy, mais qui est réinventé dans le monde de Villarroel comme une sorte de savant fou qui fait des inventions toutes plus folles les unes que les autres et qui se retrouve confronté pendant les guerres napoléoniennes et après à des phénomènes surnaturel, et le premier, parce que c'est le premier roman de la série, Cochrane versus Cthulhu, c'est, bah évidemment...
il a l'air tellement gentil.
Le seigneur de Rillier lui-même, le Lord Cthulhu, lui qui est tombé dans le domaine public, donc on peut écrire des fanfics et les sortir en roman. Alors,
c'est merveilleux.
Accroche-toi, parce que ça, c'est de la littérature pulp, hein, c'est pulp à fond la caisse.
c'est génial, c'est parfait pour
vraiment,
l'été, ça.
Faut vraiment, voilà, c'est parfait pour l'été. Et alors attention, parce que Cochrane versus Cthulhu, ça se passe... Ta-da-da-da. Ah, Fort Boyard, voilà.
Non,
c'est vraiment,
mais c'est.
Mais
c'est pour
et
ça que sur la pochette poche, c'est Fort Boyard dessus.
Mais
quoi.
Il y a le vrai Fort Boyard qui, en 1815, à l'époque des 100 jours, donc le retour de Napoléon après son premier exil, était occupé par une garnison de soldats qui étaient un peu perdus quand même au milieu de la mer.
Ouais, un petit peu, ouais.
Qui craignait une invasion britannique voilà, qui serait venue dévaster la France. Et il faut savoir que, bah, évidemment, Fort Boyard n'est pas là juste pour les émissions de télé. En fait, Fort Boyard, c'est avant tout une construction.
Mais ça servait vraiment.
Oui, c'est une fortification bah, un peu en plein milieu de la mer qui était destinée à empêcher les bateaux d'accoster en fait sur ce pan de l'Atlantique et de prendre à revers les armées françaises. C'est une prouesse d'architecture hein, pour l'époque parce que c'est vraiment un machin construit sur un banc de sable un petit peu au milieu de nulle part avec des pierres qui ont été acheminées. C'est un trésor de l'ingénierie.
Oui, quand même, il faut le reconnaître.
De l'époque, ce qui explique d'ailleurs que c'est toujours debout. Alors que c'est quand même un fort en plein milieu de la mer, c'est un peu chelou.
Et puis en plus, on fait plein d'émissions télé dedans.
Et ouais, maintenant, c'est quand même c'est un patrimoine qui est relativement entretenu, hein, quand même. Mais il faut savoir que d'ailleurs, si Gilberto Villarroel connaît Fort Boyard, c'est probablement parce qu'il y a des versions de Fort Boyard dans toutes les langues possibles et imaginables. Il y a des tournages tout le temps, en fait. Parce que vous avez le Fort Boyard allemand, il y a eu un Fort Boyard japonais, vous avez même, je crois, un Fort Boyard sénégalais. Il y a vraiment des équipes du monde entier. C'est un programme qui a été vendu à plein de gens. Mais
c'est
bref, là, ça se passe en 1815 et ça va raconter, en fait, l'histoire de, bah, tout simplement, de Lord Cochrane qui a remarqué qu'il se passait quelque chose d'un petit peu bizarre dans ces eaux-là, il part enquêter, il se retrouve échoué avec son bateau à vapeur, hein, puisque c'est un savant fou, un petit peu voilà, à Fort Boyard, il est capturé, tout le monde, la garnison locale qui est déjà un peu isolée, qui va pas très bien, se dit, oula, c'est un espion anglais, qu'est-ce qui se passe? Et là, bah, il va y avoir des disparitions qui vont commencer à se produire, il va y avoir des militaires qui vont petit à petit devenir fous, avoir des visions, entendre des voix, il va y avoir...
Mais j'adore la couverture du pot. C'est énorme.
Oui, alors oui, voilà, on t'a un peu perdu, mais tu disais que t'adorais la couverture du poche, c'est ça?
Oui, c'est ça. Pourquoi ouais. Vous m'avez perdu?
Oui, il y a eu un petit bug, on t'a pas entendu pendant 2 secondes, mais c'est rien de grave.
Ah, je disais que je kiffais la couverture du pocket et qu'elle était franchement merveilleuse avec Fort Boyard et que tu l'as juste au-dessus, c'est fantastique.
Mais oui, c'est ça. Donc, ah, c'est on est vraiment donc sur un récit à la Lovecraft, avec la vraie mythologie de Lovecraft qui est utilisée avec Malice.
Malice, ah mon gars, c'est génial.
Et vraiment, voilà, l'ensemble du bouquin qui se lit vraiment, c'est 300 pages, ça passe tout seul. C'est Fort Boyard assiégé par Cthulhu et ses serviteurs. C'est vraiment ça, quoi.
Mais il faut trop que je l'offre à mon mari, quoi.
Il y a Champollion qui débarque dedans pour essayer de décrypter les, tu vois, des écritures antiques et ineffables et tout ça. Enfin, c'est vraiment, c'est génial.
C'est énorme.
Ce bouquin, je vais le dire tout de suite, il a une limite. C'est qu'en vrai, c'est pas incroyable, c'est pas ouf.
C'est du pulp, quoi.
Ça passe tout seul, c'est super bien. Mais si vous avez déjà lu tout Lovecraft, vous allez connaître parce que c'est tous les clichés, c'est tous les tropes. Mais en même temps, c'est du pulp. T'as envie de les lire pour retrouver ça.
L'été.
C'est pas super original pour le coup. Bon, il y a zéro personnage féminin, donc toi, forcément,
moi, forcément, je vais pas le lire, quoi.
Mais en même temps, c'est une garnison de soldats dans un fort en 1815, donc ça serait le contraire, serait bizarre, quoi.
Mais
ça...
alors, tu fais une faille spatio-temporelle, bim, tu balances des nanas et tout avec des pistolets laser,
c'est ça,
passe bien,
avec
quoi.
Des tenues d'Amazon, des armures avec des boobs.
Pourquoi des tenues d'Amazon?
C'est ça le pulp aussi, tu acceptes le pulp dans toute sa dimension. Ringarde aussi, tu vois.
Oui, c'est vrai. Alors, ok pour les tenues d'Amazon, d'accord.
Des Amazones de Vénus, tu vois, c'est ok.
Ah, mais magique. Il faut qu'on
mais à un moment donné, j'étais presque à deux doigts de dire, et qu'est-ce qu'il va faire pour le tome 2? Alors, a priori, le tome 2, il se passe dans les catacombes de Paris, donc je vais évidemment l'acheter et le lire. Bon, voilà, bref, c'est
il
pas le roman du siècle.
Il est magique, ce type. Non, mais c'est marrant.
Mais
c'est du
marrant,
délire,
voilà.
Quoi.
C'est complètement, voilà, c'est du délire. Si vous êtes fan de Cthulhu, vous allez forcément, vous êtes sur vos marques, mais vous allez aimer parce qu'on est content de retrouver tous ces trucs-là.
On est relancé dans l'univers. Ça fait
les créatures
plaisir,
avec des étoiles de mer qui volent et des étoiles de mer à la place du visage, tout ça, on adore ça. Donc, voilà, des personnages historiques qui arrivent, qui n'ont rien à faire
là. Ça fait
un peu
peur, c'est vraiment drôle, débile.
Si vous êtes très sensible aux ambiances angoissantes, peut-être le lisez pas avec de la musique creepy et dans le noir, mais en vrai, moi j'ai pas eu...
Ça va être dur de lire dans le noir.
Non, mais tu vois, avec genre une petite lampe torche. Non, moi j'ai pas eu peur du tout, parce qu'en fait j'en ai déjà lu 50 des bouquins comme ça, tu sais à l'avance ce qui va se passer, mais c'est ça qui est marrant, tu vois, c'est... C'est vraiment d'être vraiment dans des sentiers très très balisés et de se dire mais qu'est-ce qui va comment il va rebaliser ça en fait en utilisant tout simplement le décor de Fort Boyard et des guerres napoléoniennes qui est très marrant quoi. Donc c'est la lecture. Si vous avez un machin, vous voulez un truc horrifique feel good à lire pendant l'été, vous allez aux Forges de Vulcain, vous prenez Cochrane versus Cthulhu par Gilberto Villarroel. C'est sorti en poche hein, parce que le bouquin est sorti il y a un an et demi, 2 ans. Vraiment voilà, ça passe tout seul, c'est très plaisant.
Eh bien, merci pour cette recommandation, mais ne serait-il pas temps, mon cher Zali,
oui.
D'une petite réclame façon Ina, s'il te plaît?
On a terminé la saison un petit peu hein, au Kelvin Moule Consortium. Donc tout ça pour vous dire que là, ça ne sera pas une vue sur un podcast, mais sur un petit peu l'ensemble du réseau pour dire que ça fait 4 ans maintenant que
un
ça existe.
Un réseau un petit peu pieuvre.
Non, ça fait 4 ans que ça existe, ça en fait un tout pile là au moment où on enregistre qu'on est passé en asso, ce qui nous permet aussi de centraliser les dons, d'organiser des événements de manière plus simple. Organiser des événements, c'est on
quand
est
quand il y aura plus le Covid.
Voilà, c'est bien, tu as la 8e, 14e vague, donc c'est bien. J'ai vraiment hâte qu'on ait le premier virus en échappement viral, c'est-à-dire qu'en échappement du vaccin. Tu vois, c'est...
Non, moi pas. Ça m'intéresse pas trop de dire ça, mais on n'aura peut-être pas de choix.
Parce qu'à force qu'on file zéro vaccin aux pays les plus pauvres...
Arrête un petit peu, espèce de démago. Mais t'es un petit peu trop islamo-gauchiste, toi,
non ? On fait que rajouter des balles dans le pistolet à variant. Et à un moment donné, il y a une balle qui va sortir. Ce sera celui qui échappe au vaccin. Et on sera reparti pour 6 mois de bordel, etc. C'est pour ça qu'il faut libérer les brevets. Enfin bref, tout ça pour dire...
Libérer quoi ? Mais la thune, mon pote, la thune.
Sauf qu'en plus, mais en plus c'est absurde parce que pas tant que ça, parce que les coûts de R&D à
mais
chaque fois,
c'est rien
du
tout.
C'est énorme en fait. Non mais en fait, c'est-à-dire que si la vaccination, ce n'est pas un bon plan en fait pour les firmes pharmaceutiques. C'est un bon plan à court terme, mais à long terme, ce qui est cool, c'est les maladies chroniques. En fait, les labos, ils veulent pas que vous ayez des maladies dont on guérit d'un vaccin. Ils veulent que vous ayez des maladies dont on guérit pas. Ils veulent que vous ayez du diabète. C'est ça qui les arrange. Parce que les vaccins, il faut en permanence en redévelopper. C'est chiant, c'est relou, c'est machin produit. Donc, Big Pharma, ils ont surtout intérêt à ce que vous ayez des maladies dont on ne guérit jamais. Donc, plus tôt vous serez tous immunisés contre le Covid et moins il y aura de variants, plus vous pourrez retourner à des maladies chroniques dont on ne guérit pas, comme la scoliose et le diabète. Voilà, bref, ça c'était le zali politique. C'est pour ça que je ne me lance pas en politique, je ferai 1% des voix. Donc c'est, voilà.
Mais
je
ferai 1% des voix, pas, je me ferai
assassiner probablement.
Ouais,
personne ne m'écouterait. Je fais très Twitter. Bah,
après,
suffit.
Ouais, je sais pas, mais voilà, Twitter c'est parfait. Moi, j'essaye même plus là. Tu vois, il faut
Twitter,
avoir l'énergie.
Le
tout
Twitter
ça.
Des ralos.
Comme je te disais, maintenant, je mets par la main dans mes yeux quand les gens me parlent.
Ah,
et
Michael
Youn, voilà.
J'adore cette chanson. Enfin, bref.
Ouais,
ça,
elle est rigolote. Hein.
Ah, on est revenu en 2009, on parle de Michael Youn. Bon,
ah,
bref,
oui,
l'association Nita Dodo.
Il a
montré
son cul tout nu. Ah.
Là, oui, voilà. L'association Nita Dodo qui maintenant soutient quand même 11 ou 12 podcasts. Je vais pas tous les reciter, mais on est quand même content. Peut-être il y aura des nouveaux podcasts à la rentrée, peut-être pas, il y en aura au moins un puisque c'est moi qui vais le coproduire dans le cadre de mon nouveau travail. Ce sera un podcast plus sérieux que ce que j'ai l'habitude de faire. Enfin, tout ça pour dire que
j'attends de voir.
Ça a été rendu notamment possible parce qu'on est une cinquantaine à faire tourner la boîte, les chroniqueurs, les animateurs d'émissions, Yatoz qui s'occupe de la technique, tout ça. Et ça, c'est quand même
merci,
cool.
Yatoz.
Et je suis content de pouvoir rendre hommage à tout ce monde-là et bien entendu aux auditeurs qui ont été avec nous toute la saison, y compris quand on n'a pas été régulier en. Et aux auditrices, aux auditeurices, voilà, c'est comme ça on est content, qui ont été avec nous toute la saison et qui nous ont supportés, même quand on était inégaux ou qu'on n'était pas à l'heure pour le rendu des émissions. Voilà.
Pardon d'avance pour l'appel de Catulu, le 29 et le 30, c'est vrai, non, le 28 et le 29 sont en retard. Mais...
Néanmoins, normalement, on ne fait pas d'épisode l'été, là vous aurez un épisode juillet, un épisode août, enfin, vous
exactement.
L'avez, en fait. Vous
donc,
l'avez même
coup,
en train de l'écouter.
On a fait notre pause de 2 mois avant les 2 mois, voilà.
On a fait un mini confinement du podcast et il est déconfiné l'été comme tout le monde.
Voilà, et confiture. Je ne sais pas, confinement, ça m'a toujours fait penser à confiture, aucune idée de...
Et on revient en septembre.
Mais ouais.
Ouais, voilà, saison X, je sais pas combien, saison 3, troisième saison complète, ouais.
Ouais,
c'est donc
vrai,
on vient pour une saison 3 et c'est cool.
Ouais, et là maintenant on va parler du livre du jour, hein. Enfin du mois.
Voilà, maintenant on va venir avec nos plus beaux habits de deuil,
et
nos
alors,
plus belles
cordes.
Et alors,
je n'aime pas du tout ce que t'as noté sur le conducteur, n'est-ce pas? Sur vite fait, ce qu'on en a pensé.
Est-ce que c'est faux?
Il dit... Mais non, mais j'y peux rien, moi je prends au niveau en fonction du numéro de page.
Du nombre de pages.
Et oui, après moi j'y peux rien si c'est déprimant, tu vois. Je veux dire, il dit, alors je vous le lis direct ce qui est écrit, il faut arrêter de laisser Bob choisir les livres, après on a envie de se flinguer. Merci, bonsoir. Hein, voilà, alors excusez-moi de vous donner des envies de suicide parce qu'il ne faut surtout pas le faire et aller voir votre médecin si ça doit arriver, mais surtout il y a ce livre.
C'est faux parce que je crois que c'est toi qui avais choisi Claudine à l'école et en vrai c'était assez cool.
Ah.
Enfin c'était on avait bien rigolé en le lisant.
Voilà.
Bon, là je peux pas dire que j'ai beaucoup ri en lisant L'homme est un grand faisant sur terre.
J'étais plutôt pâte.
Taper sur les cuisses en disant la Roumanie de Ceaușescu, qu'est-ce qu'on s'amuse, tu vois.
C'était drôle.
Ah, les persécutions contre les minorités.
C'était merveilleux de pouvoir avoir un arbre mort et de le brûler parce qu'il était hanté.
La prostitution pendant les goulags.
Oh, allez, ça va. Tu noteras que tous les hommes mouraient aussi. S'ils étaient un
tout
petit peu plus
meurt,
résistants, ils resteraient vivants et du coup, la nana,
c'est
elle
sûr,
en choisirait qu'un.
Par moins 40 avec pas à manger, tu vois. Ça...
Oui, ouais. Bon, ils font pas d'efforts. Hein. Regarde, elle s'est prostituée, elle a réussi à survivre. Alors, j'ai envie de te dire.
À peine, quoi, avec un PTSD à vie, quoi. Enfin, bref.
Un PTSD.
Tout ça pour dire. Un stress post-traumatique.
Ah oui, mais non, mais ça, c'est l'être humain. C'est la vie, mon pote. Heureusement que... Hein. Voilà. Non,
alors,
je déconne. Allez voir des psychologues qui gèrent les troubles traumatiques. Ça, c'est très, très utile et ça marche super bien.
On est très dispersés. Donc, on va se recentrer un petit peu. Erta Müller, pour la présenter très rapidement.
Et ce n'est pas du jambon.
Erta Müller, elle a un peu la tête de ce qu'elle écrit. C'est-à-dire qu'elle a l'air... C'est pas grave. Laisse-moi parler. Je vais présenter. On ne finira jamais. Tu verras jamais ton bébé, sinon. Erta Müller, donc, qui est... Tu la connaissais avant ou pas?
Pas du tout.
Voilà, bon, elle a une tête d'institutrice qui va te frapper sur les doigts avec une règle en fer, et en même temps, ça peut se comprendre, parce qu'elle n'a pas eu la vie la plus fun de l'univers.
Et non, puisque elle a... le bouquin est quand même un petit peu autobiographique.
Une grosse, voilà, comme une grosse partie
alors,
de son œuvre.
Alors, était-elle la mère ou la fille ? Dans tous les cas, le sort n'est pas enviable.
Peut-être un mélange des deux, mais en vrai, une grosse partie de son œuvre est assez autobiographique, ou du moins basée sur son expérience et celle de ses proches.
Elle a deux, trois petits trucs à dire, c'est sûr.
C'est une romancière roumaine, mais de la minorité allemande de Roumanie. On adore les redécoupages de cartes dans tous les sens, voilà. Elle est née dans le Banat, qui est une région peuplée en partie d'Allemands qui se sont retrouvés à la fin de la Seconde Guerre mondiale un petit peu pas du bon côté du rideau de fer et pas du bon côté même de l'Allemagne, puisqu'il y avait une partie des Allemands qui étaient en Allemagne de l'Est et une partie des Allemands qui se sont retrouvés en Roumanie où ils constituaient une minorité qui oscillait entre tracasserie et persécution. Voilà, c'est-à-dire ils étaient beaucoup plus surveillés par la police politique de Ceausescu.
J'apprécie que tu dises tout ça parce que tu vois, je ne le savais pas et du coup, je comprenais pas pourquoi ils voulaient absolument aller en Allemagne.
Eh ben, alors d'une part, parce que.
Pourquoi aller en Allemagne ?
Eh ben, parce qu'en fait. Voilà, parce qu'en fait, la plupart des romans, d'où le fait qu'ils aient des noms allemands plutôt que roumains. T'as Windisch, c'est plutôt un nom roumain, c'est plutôt un nom allemand que roumain. C'est le Windisch, c'est le protagoniste. En fait, voilà. Donc c'est des gens dont on devine les origines, qu'ils appartiennent au peuple allemand en fait, enfin aux Allemands de Roumanie. Donc la vie est encore plus dure pour eux que pour les autres. Donc c'est des gens qui veulent émigrer en Allemagne et c'est ce qui a été la vie de Herta Müller, puisque elle a vécu ça, sa famille, sa mère a été déportée en URSS après la guerre, son père qui avait servi dans la Waffen-SS gagnait pas très bien sa vie, elle est devenue prof mais elle avait à peine le droit d'enseigner, c'est-à-dire qu'elle pouvait enseigner que dans des écoles, d'abord elle a travaillé dans une usine puis elle a été licenciée parce qu'elle voulait pas travailler avec la police secrète, puis elle a été prof de manière moitié semi-clandestine, moitié dans des lycées privés pour la minorité allemande qui fermait un petit peu au gré de l'envie de l'État. Elle a commencé une carrière littéraire, mais où son œuvre était soit censurée, soit elle n'avait pas le droit de travailler. Enfin, bref, c'était très compliqué. Ses bouquins étaient publiés en Allemagne de l'Ouest, donc du côté occidental, de l'autre côté du rideau de fer, mais du coup, ça lui causait des problèmes dans sa vie en Allemagne. Enfin bref, elle a finalement réussi à quitter la Roumanie en 87, où elle a consacré l'intégralité de sa carrière jusqu'à maintenant, puisqu'elle elle écrit toujours.
Oui, elle est toujours vivante, ouais.
Voilà, à parler...
Franchement, c'est pas souvent qu'on tombe sur des auteurs et des autrices vivants, hein.
C'est vrai, mais ça nous arrive quand même. Mais c'est vrai que comme on traite beaucoup de littérature considérée comme classique, quand on a fait des romans considérés comme classiques plus récents, c'était plutôt des best-sellers récents, tu vois, comme Trois Femmes Puissantes, par exemple. Est-ce que Trois Femmes Puissantes deviendra un classique ? C'est peut-être dans 50 ans qu'on le saura, mais...
Peut-être pas. Est-ce que j'avais oublié ?
Tu vois, non mais il y a eu aussi, tu sais, les amateurs des pluchures de patates. Il y a eu, il y a eu quelques romans relativement récents qu'on a fait. Mais c'est vrai que là, on est sur un roman qui a été publié, je crois, j'ai pas noté, dans les années 90.
J'ai pas noté non plus. C'est mal.
Ouais, on est un peu d'ici. Attends, on va chercher.
Mais oui.
L'homme est un grand faisant sur terre, que j'ai d'ailleurs trouvé facilement en e-book, et on remercie quand c'est facile d'acheter un bouquin en e-book, parce que c'est pas toujours le cas.
Ouais.
86. Donc on est sur le début de sa carrière. Elle a commencé à écrire vraiment, je crois, son premier roman, c'est 82.
J'ai une photo d'Herta Müller qui rit, et elle fait beaucoup moins peur.
Ah c'est souvent comme ça quand on rit, voilà, c'est...
demande au Joker, excuse-moi, mais non, le Joker, il fait peur.
Oui, mais quand il fait la gueule, c'est peut-être pire. Bref, maintenant qu'on a présenté rapidement Herta Müller, est-ce que tu nous présenterais rapidement un petit peu l'histoire de ce roman ?
Oui. Donc, nous avons donc Windisch, un meunier qui veut quitter la Roumanie pour l'Allemagne avec sa femme et sa fille. Et on vit sa folie, on vit ses regrets, on vit l'horreur de la situation et des sacrifices qu'il doit consentir pour pouvoir partir, sans parler de ceux de sa fille et de sa femme, bien évidemment. Voilà. Alors, c'était, c'est super poétique.
Ouais. Oui, c'est un. Alors, elle est pas que romancière, Herta Müller, elle est poétesse également.
Ouais. Ah, franchement, ouais, c'est magnifique. Il y avait des phrases. Alors, merde, j'aurais dû, pendant que tu parlais, là, au lieu de d'être dans l'intimidation parce que tu m'avais menacé de plus revoir mon fils, bravo, et ben, du coup, j'aurais dû regarder pour trouver un passage à lire. Bon, il y aura bien un autre moment où tu feras un monologue, alors je regarderai. Eh, j'ai compris le titre!
Ah bah bravo, parce que moi j'ai pas cherché en fait, oui. Voilà, donc pour moi ça faisait partie de ces licences poétiques, j'ai lu le livre un peu à l'arrache pendant un week-end ou pendant que les gens dormaient, donc j'ai pas fait des masses de recherche quoi. Ça.
Il se lit vachement vite.
Oui, hein, ça c'est en une heure et demie.
Ouais, 2-3 heures maximum, ouais. Ça marche vraiment bien, ouais. Parle voir s'il te plaît, je suis pas sûre
Bonjour.
De t'entendre aussi. Ouais, voilà, ok, merci, parce que j'ai appuyé sur le bouton de mon casque en même temps. Et donc qu'est-ce que je disais ? Oui, ça se lit super vite. Et donc, ouais, alors j'ai fait des recherches du coup, et j'ai trouvé ça dans le bouquin Flânerie 6 d'André Lassoudière, page 156, j'ai aucune idée de qui c'est, ni pourquoi, ni comment. Et donc, en Roumanie, le faisan, mais merci à lui de m'avoir donné la clé, le faisan est le symbole d'oiseau de fuite qui ne sait pas voler et qui se cache derrière les broussailles, un perdant donc. Et en Allemagne, c'est le symbole de l'orgueil et de la présomption. Et alors c'est rigolo parce que c'est exactement ce qui sont les hommes dans ce roman. Et c'est d'autant plus vrai qu'à la fin, quand ils sont passés en Allemagne, parce qu'on le sait, hein, je veux dire, c'est écrit dans la quatrième de couverture, de toute manière il n'y a pas beaucoup de suspense, hein, voilà,
ouais.
Ils se la pètent grave ensuite, tu vois.
Ouais,
et ouais, donc du coup le titre est extrêmement bien trouvé. Alors là, a-t-elle fait cette fin en fonction du titre pour montrer l'évolution, ouais. Parce qu'ils ont réussi à passer en Allemagne, tu vois, du coup elle est très très poète, c'est possible. Est-ce que c'est elle voulait vraiment faire en sorte de montrer que quand on a avoir un peu plus de thunes, il faut qu'on se la pète en revenant en disant voyez les gars, vous avez essayé de nous détruire, mais nous on s'en sort mieux que vous. Peut-être les deux.
Mais peut-être mais en tout cas c'est une clé de lecture intéressante que le savoir ce que effectivement ce symbole différent du faisan entre l'Allemagne et la Roumanie.
Voilà, ouais. C'est ça. J'ai trouvé ça cool. Donc merci André Lassoudière. Voilà, voilà. Sinon qu'est-ce qu'on peut dire de plus
Moi je peux détailler un petit peu effectivement.
Allez,
sur les péripéties de ce livre, c'est-à-dire qu'effectivement on va suivre ce meunier. Alors on est dans la Roumanie assez profonde. On n'est pas dans une grande ville, on est vraiment dans un village où tu sens que tout le monde se connaît et que ça crée une espèce d'ambiance qui est giga pesante déjà de base.
Oui, pesant, mais ouais, mais voilà, moi j'ai pas aimé le mood parce que c'était trop pesant, mais donc du coup c'est réussi. Parce qu'elle voulait vraiment faire ça, quoi.
Donc voilà, c'est tout. Alors, moi j'ai noté que c'était un roman qui a une particularité, c'est que du fait des conditions, parce qu'en plus ça se passe vraiment au pire de la dictature de Ceausescu, qui était un des pires dictateurs qu'il y a eu dans les pays de l'Est en fait, hein, puisqu'il est resté très longtemps, il est resté de la fin des années 60, au moment où la population lui a collé 2 balles dans le crâne en 1989, puisqu'il a été exécuté. Donc il est resté longtemps, c'était un culte de la personnalité, ce qui des fois d'ailleurs causait des problèmes entre la Roumanie et la Russie, parce que vraiment le mec se prenait pour une espèce de petit Staline local.
C'est abominable.
Qui d'ailleurs voilà, il s'est plusieurs fois même opposé à la Russie, ce qui a failli causer des guerres civiles et des invasions au sein du parc de Varsovie, parce que le mec avait vraiment beaucoup plus d'ego que la plupart des dirigeants des pays communistes autour. Et puis aussi voilà, c'est Ceausescu, c'est
il a fait un palais gigantesque pour un
c'est
pays
ça,
aussi. Enfin, c'est... Wow.
C'était un pays, et c'était aussi un des pays les plus pauvres du bloc de l'Est, quoi. C'était plus pauvre que l'Allemagne de l'Est, c'était plus pauvre que la Bulgarie, que la Russie, etc. Puisque le pays était un peu conduit n'importe comment, notamment du fait que c'est un pays qui s'industrialisait pas beaucoup. C'était un pays qui restait très rural, où il y avait aussi des problématiques de coexistence entre des minorités qui étaient compliquées, qui étaient même le pouvoir politique enjoué pour opposer les gens les uns aux autres, une forte minorité de tziganes, une minorité allemande, une minorité suabe, enfin voilà, c'était un pays qui était vraiment, c'était un peu l'enfer à cette époque-là, et en fait on le retrouve dans le microcosme de ce village, dans le bouquin. Avec, j'ai noté un roman, et c'est la faute du contexte qui rend les gens comme ça, où il n'y a pas de gentils. Tu vois, c'est vraiment un roman ah non, tout le monde.
Non, non, c'est super humain. Au final,
ouais,
aussi.
Mais tu vois, t'as l'impression que t'as personne en tant que lecteur à qui te rattacher là-dedans pour te dire ah, j'ai aucune lueur dans cet enfer, tu vois. C'est...
Mais pour qui va ma sympathie? Je sais pas.
Non, mais c'est ça. En fait, ce que tu vois, tous les habitants du village, en fait, ne sont que dans un système où leur seul mode de survie de base, c'est de profiter des autres. Parce que il faut bien aller chercher le peu de bonheur que tu peux avoir, le peu de bonheur matériel que tu peux avoir, le peu de bien que tu peux essayer de récolter. Faut bien le prendre à quelqu'un, comme tu peux de toute façon pas l'acquérir. Donc tu voles ton voisin, tu lui fais miroiter des trucs, tu prostitues ta femme, tu voles des trucs, tu...
Alors, donc, il n'a pas prostitué sa femme, hein. Faut se
calmer
un peu.
Non, mais c'était plus
peu,
général
hein.
Que ça, que ce que je disais. Je révélais pas des détails de l'intrigue. Mais tout ça pour dire qu'en fait, voilà, tout le monde vit une espèce de vie étouffante où tu ne peux finalement t'en sortir qu'en étouffant les autres, et c'est horriblement triste, quoi.
Oui. C'est énorme. Voilà, voilà. Putain, je viens de retomber sur le passage où il y a le fils du magicien qui emmène Amélie quand elle a 7 ans.
Voilà,
voilà. Voilà. Donc ça met en forme. Excusez-moi, hein, j'essaie de trouver un autre passage à lire parce que là, sinon, vous. Non.
Bah, lis la scène avec le pasteur, là, je sais pas qui est encore pire, tu vois. Ça.
Non, hors de question,
mais en fait,
je la lirai pas, c'est la
Mais en fait, y a, voilà. Oui, enfin, il y a plein de passages qui seraient intéressants. Là, c'est pareil, j'ai plus le bouquin sous les mains, mais tu vois, j'ai été noté parce que tu peux te dire, voilà, tout le monde en veut à cette famille. En plus, voilà, ils ont effectivement, c'est en creux, ils sont persécutés parce qu'ils sont allemands. Mais en vrai, eux-mêmes, tu vois, quand Windisch il fait visiter son exploitation à un mec qui veut la reprendre parce qu'il va partir, t'as lui-même, tu sens qu'il essaye à moitié de l'arnaquer et tu vois, il a bâclé l'état des lieux, tu vois, comment dire, je suis en train de déménager en ce moment. Tu sens bien qu'il a caché les vis de forme, qu'il lui dit pas tout, qu'il lui dit pas qu'à quel point ça va être galère et tout ça, quoi. Donc, ouais, il y a plein de scènes, en fait, il y a plein de petites scènes comme ça qui se succèdent, plein de conversations où les personnages.
C'est une scène qui semble avoir ni queue ni tête au final en plus.
Ouais. Parce
qu'il y a tellement
leur vie
de poésie,
a ni queue ni tête, quoi. Ouais.
Et voilà, c'est ça. Mais tout, ouais, l'absurdité est présente tout au long et ils sont la folie, moi je trouve aussi.
Oui.
Tu vois qu'ils sont. Il faut qu'ils s'évadent, il faut qu'ils pensent à autre chose, faut pas qu'ils cherchent un sens parce qu'ils vont péter une pile, les gars, quand ils vont se tirer une balle, c'est pas possible, tu peux pas vivre dans ces conditions.
En fait. Son échappatoire au héros à Windisch, c'est que lui déjà, il a l'impression de voir la fin du monde partout, c'est-à-dire qu'il a l'impression que tout va s'arrêter en fait autour de lui en permanence. C'est comme s'il avait déjà presque un pied dans la tombe. Et son échappatoire, c'est l'Allemagne, parce que lui, il fantasme complètement l'Allemagne, il pense que tout va être formidable là-bas, il entend les bruits, les biens de consommation qui sont là-bas, tout le monde lui dit « Ah, la vie est formidable, machin sauf qu'il y a des Noirs et des Turcs, alors quand même, ça, c'est pas très bien. » Mais voilà, c'est une petite réflexion au moment où tu te dis « ça va être compliqué, son adaptation là-bas. »
Ouais,
en fait,
non, ça, c'est clair, je sais pas comment ils peuvent y arriver. C'est peut-être ça, c'est que la fin, elle est trop rapide, au final.
Et en fait, ils y arrivent. Tu sens, en fait, ouais, en quelques pages qu'ils y arrivent pas. Et que c'est pas possible. Parce que ce qu'ils cherchent là-bas, ça n'y est pas, en fait. Parce que là-bas, ils vont devenir les immigrés, ils vont redevenir des gens qui ne sont pas à leur place. Ils vont être des exploités économiques, ce qu'ils étaient déjà là où ils étaient. Et au final, peut-être que le destin s'améliorera pour la génération suivante, mais pour eux, c'est mort, en fait.
Ah oui, non, mais franchement, c'est terriblement dur comme histoire. C'est horrible. Et je trouve aussi que ça met bien en avant le principe de la fracture entre l'homme et la femme aussi.
Oui, complètement.
Énormément.
Ah oui. Alors oui, c'est un roman qui dépeint le machisme et le patriarcat, littéralement de patriarcat, parce que ce n'est qu'une espèce de galerie de patriarches qui se prennent pour les rois de leur maison. Et t'as tout. T'sais, alors, je trouve formidable.
Oui, à aucun moment ils vont dire, mais c'est l'autre homme qui est complètement dégueulasse de profiter de la situation. Non, c'est la femme qui accepte d'eux, donc c'est elle la pute. Mais non, les gars, quoi, à un moment donné, elle est obligée, ça s'appelle un viol, c'est même pas de la prostitution, enfin, c'est au-delà de ça. Enfin, tu vois, la prostitution dans le sens positif où, voilà, t'as envie de demander, d'apporter du réconfort à quelqu'un, tu vois, et tu demandes une rémunération. Mais là, non, là, c'est au-delà.
Non, non, là, c'est vraiment du proxénétisme, en fait.
C'est
voilà,
ouais,
simple.
Et puis jamais, à un moment donné, tu sais, il ferme les yeux, le père. Il ferme les yeux. Il dit non, mais je veux pas voir ça. Et il voit plein de papillons, c'est super génial. On est content pour toi, mon pote. Mais en attendant, t'es en train de faire un truc dégueulasse pour pouvoir te barrer.
En fait, il y a une scène que je trouve du roman qui l'illustre hyper bien. C'est la scène qui se passe dans une école où il y a un cours donné à des enfants pour leur expliquer qui c'est Ceausescu. Tu vois, je sais pas, c'est vers le milieu du roman.
Ah ouais, je l'ai pas comprise cette scène.
Mais en fait,
je sais pas ce qu'elle foutait là.
Bah, c'est une scène pour montrer déjà toute l'absurdité de l'enseignement en Roumanie à cette époque-là, parce que ce qu'ils apprennent, c'est idiot, en fait. Enfin, ça n'a pas de sens, c'est pas vrai, quoi. Ils te disent, oui, la Roumanie est un pays formidable. Le papa de la Roumanie, c'est Ceaușescu.
Ah, oui, c'est vrai, oui.
Et nous avons tous un papa. Et le papa, c'est le chef. C'est le chef chez toi, le papa. Oui, alors, du coup, et ben Ceaușescu, c'est le chef de tout le pays, parce que le pays, c'est notre maison. Et tu vois, c'est vraiment un truc. Tu te dis, c'est le niveau zéro de la propagande, mais c'est tellement absurde. Et c'est tellement littéral, en fait, le truc que c'est on leur apprend vraiment littéralement que la Roumanie est organisée dans un système de culte de la personnalité fait autour de la figure du père, quoi. Et tu comprends, en fait, que du coup ils sont foutus pour des générations, parce que une fois que t'as appris ça quand t'es gamin, mais comment tu fais pour pas l'apprendre, en fait, pour le désapprendre ou pour avoir un autre mode de fonctionnement? C'est quasiment impossible.
Bah, tu vas voir un psychologue spécialisé dans les syndromes post-traumatiques.
Oui, la pléthore de psychologues en Roumanie rurale des années 70.
Exactement.
On les salue, ils étaient sans doute de très bonne qualité, très nombreux et très abordables.
Oh oui, absolument.
Voilà. D'ailleurs, je peux parler d'une anecdote un peu personnelle qui n'a rien à voir directement avec ce livre.
Écoute, c'est toi qui le sens.
Moi, quand j'étais en école primaire, on a eu beaucoup de réfugiés roumains. Nous, des gens qui sont venus juste à la toute fin de la chute de Ceaușescu, enfin à la toute fin de la Roumanie communiste. Beaucoup de gens, en fait, sont partis, notamment parce qu'il y avait des gens pour des tas de raisons, hein, mais qui pouvaient être persécutés sur le nouveau régime, soit parce qu'ils étaient dans des minorités, soit parce qu'ils étaient tziganes, soit parce qu'ils avaient travaillé pour l'État, soit au contraire c'était des opposants de l'État et ils pouvaient y risquer leur vie dans les derniers mois du régime, parce qu'ils auraient très bien pu se faire liquider, tu vois, par l'État lui-même qui voulait se débarrasser des preuves, ou enfin bref, c'était confus, hein, la fin de la Roumanie. Et du coup, dans mon école primaire, il y avait pas mal de familles roumaines, et du coup, moi, ce roman, ça m'a pas mal rappelé tout le parcours de ces gens-là, dont pour certains, je m'en souviens encore.
Ça a dû te frapper. Je veux dire, toi, t'es tranquille et tout en Lorraine, et puis t'apprends des choses de ouf qui se passent pas si loin que ça.
Tu sais, j'avais 7-8 ans, tu vois.
Ouais,
donc
mais justement, enfin, si, justement, quoi.
Pour moi, c'était loin, et ce que je voyais surtout, c'est que ça nous semblait tous bizarre que les enfants parlent super bien français, alors leurs parents moins, mais en fait, le français était une des rares langues que t'avais le droit d'apprendre en Roumanie. Donc beaucoup de gens ont choisi la France parce qu'ils apprenaient le français à l'école, en fait, en tant que LV2.
Oui.
Voilà, parce qu'il y a des liens historiques entre les diplomatiques, notamment entre la France et la Roumanie, qui faisaient qu'il y avait beaucoup d'écoles françaises là-bas. Donc, oui, nous, à part trouver ça bizarre que des Roumains arrivent comme ça, je m'en souviens pas très bien, mais par contre, je me souviens du décalage justement entre les enfants qui s'adaptaient très vite et les parents qui, eux, étaient accablés, n'arrivaient pas à s'adapter, avaient du mal à trouver du travail. C'était super dur parce que la capacité d'adaptation et de résilience des enfants est plus forte que celle de gens de 45 ans qui ont vécu toute leur vie dans une dictature atroce, quoi.
Ça, c'est sûr.
Donc voilà, moi, le roman m'a aussi rappelé le parcours de toute cette génération-là. Et d'ailleurs, je trouve que dans le roman, je ne sais pas si ça t'a frappé aussi, mais le personnage d'Amélie, tu sens qu'il est le personnage de la fille, donc de Windisch, est déjà d'une autre génération que ses parents.
Ah oui. Ah oui, clairement.
Elle est complètement différente et elle a d'autres aspirations et elle a d'autres envies. Et en tant que femme, elle va avoir d'autres aspirations que la mère, quoi.
Et en même temps, tu sens qu'il y a une connivence entre la mère et la fille qui se crée justement par l'obligation de devoir se prostituer pour survivre.
Mais complètement.
La fois atroce et beau, parce que je vois par exemple l'histoire de la potiche. À la fin, voilà, les discours qu'il y a entre les échanges entre la mère et la fille pour ce vase sont juste surréalistes et en même temps remplis d'émotions et d'amour. Et tu vois qu'il y a un fossé gigantesque entre l'homme et la femme.
Mais complètement, ils sont presque ensemble parce qu'ils sont obligés, parce que c'est le modèle, mais en fait, ils n'ont absolument rien à se dire, quoi.
Non, quand elle se refuse à son gars, et après, quand elle se fait la petite séance d'onanisme tranquille, là, qu'il la surprend, mais cette scène est juste fantastique. Et après, tout le long où à chaque fois, il regarde le doigt de sa femme, quoi.
Ouais, c'est ça. Et tu sens qu'il est à moitié dégoûté, à moitié accablé, à moitié excité, à moitié il se déteste lui-même. Enfin, c'est
La tristesse, c'est pour lui. Une femme, c'est un être bizarre qui pourra jamais comprendre. En fait, t'es assis à côté d'un autre être, c'est un extraterrestre. Littéralement, pour eux, les femmes, c'est quelque chose qui. Enfin, tu vois jusqu'où c'est bloquant quand ça discute pas. Et encore, non, même pas, ils discutent, mais quand il y a autant de barrières moralisante. Et,
ouais. Oui, c'est des barrières morales et sociales, en fait. Ouais,
ouais, mais c'est tellement choquant, tu vois ça. Enfin, c'est une tristesse tellement absolue.
Ouais, bah de toute façon, oui, c'est un roman qui est super triste et qui parle beaucoup. Et t'en as super bien parlé, je trouve, de la manière dont personne ne communique, en fait, dans ce roman.
Non, ils sont assis les uns à côté des autres et ça n'a ni queue ni tête quand
mais
ils discutent.
Tous, ouais, bah oui, c'est des discussions qui n'ont ni queue ni tête, mais parce qu'en fait, c'est un régime où tu ne peux avoir de discussion sur rien.
Oui, c'est
parce
pas
que
faux.
Toute discussion, en fait, qui dériverait vers le moindre sujet pertinent, en fait, bah, elle peut te valoir simplement un enfermement ou une mise au ban. Enfin, tu peux perdre ton travail. Herta Müller, elle a littéralement perdu son travail dans les années 70 parce qu'elle a refusé de devenir informatrice. Vas-y.
On va faire une petite pause. Il y a bébé qui pleure beaucoup trop.
D'accord. Ok.
Voilà, donc désolé. On en était où?
Je sais plus trop, mais on n'a qu'à dire qu'on a eu une interruption.
Ah, ils étaient l'un à côté de l'autre. Ouais, voilà. Si tu veux, je peux lire un petit truc.
Bah, lis-nous un petit extrait qui montre l'incommunicabilité de l'être.
Bah, j'essaye, ouais.
C'est important.
Hop. Là, alors attends, hop. J'en mets. Voilà. Le dahlia blanc. En pleine canicule, au mois d'août, la mère du menuisier a plongé une grosse pastèque dans les puits. L'eau a formé des vagues autour du seau. Elle glougloutait autour de la peau verte. Elle refroidissait la pastèque. Munie de son grand couteau, la mère du menuisier est allée au jardin. Le chemin était un sillon. Les salades étaient montées, les feuilles gluantes du lait blanc qui parcourent les côtes. Les côtes. La mère du menuisier a traversé le sillon avec son couteau. Entre clôture et jardin fleurissait un dahlia qui lui arrivait à l'épaule. La mère du menuisier a respiré le parfum du dahlia. Elle a humé très longuement l'odeur des pétales blancs. Elle a inhalé leur senteur. Elle s'est frottée le front. Elle a regardé dans la cour. La mère du menuisier a coupé le dahlia blanc avec son grand couteau. La pastèque n'était qu'un prétexte, a expliqué le menuisier après l'enterrement. Le dahlia lui a été fatal. Et la voisine du menuisier ajouta : le dahlia, c'était une vision. L'été a été tellement sec, dit la femme du menuisier, que le dahlia a été couvert de pétales blancs tout recroquevillés. Il avait fait une grosse fleur comme jamais un dahlia n'en fait. Il n'y avait pas de vent. La fleur n'est pas tombée. Il y a longtemps que le dahlia était sans vie, mais il n'arrivait pas à se faner. Ça, c'est insupportable, dit le menuisier. Personne ne peut supporter cela. Personne ne sait ce que la mère du menuisier a fait du dahlia qu'elle a coupé. Elle ne l'a pas rapporté à la maison. Elle ne l'a pas mis dans sa chambre. On ne l'a pas retrouvée non plus au jardin. « Elle est sortie du jardin, le grand couteau à la main, » dit le menuisier. Dans ses yeux, il y avait un reste de dahlia. Le blanc de son œil était sec. « Peut-être, » poursuivit-il, « qu'en attendant la pastèque, elle a effeuillé le dahlia dans sa main. Elle n'a pas laissé tomber un seul pétale par terre, comme si le jardin avait été une chambre. » « Je crois, » dit le menuisier, « qu'elle a creusé un trou dans la terre avec son grand couteau et qu'elle y a enterré le dahlia. » En fin d'après-midi, la mère de menuisier a remonté le seau du puits. Elle a porté la pastèque sur la table de la cuisine. De la pointe du couteau, elle a percé la peau verte. D'un geste circulaire, elle a fendu la pastèque en deux avec son grand couteau. Un grondement s'en est échappé. Un râle. La pastèque était encore vivante dans le puits et sur la table de la cuisine jusqu'à ce que les deux moitiés se détachent. La mère du menuisier a écarquillé les yeux, mais comme ils étaient aussi secs que le dahlia, ils sont restés tout petits. Le jus dégoulinait de la lame du couteau. Ses petits yeux fixaient la chair rouge avec haine. Comme les dents d'un peigne, les pépins noirs se recouvraient les uns les autres. La mère du menuisier n'a pas coupé la pastèque en tranches. Elle a placé les deux moitiés devant elle. Avec la pointe du couteau, elle a creusé la chair rouge. Elle avait des yeux avides, comme je ne lui en ai jamais vu, a dit le menuisier. Le jus rouge a coulé sur la table. Il lui dégoulinait de la bouche jusqu'au coude. Le jus rouge de la pastèque collait par terre. Voilà.
on s'amuse bien ici.
Eh, bonne ambiance ou pas bonne ambiance, hein?
Ouais, mmh. Ouais.
J'aurais
excellente
pu continuer,
ambiance.
Mais je me suis dit que bon, voilà, on avait un peu fait le tour du sujet. Donc ouais, voilà, voilà. C'est... Moi, je trouve que c'est pas simple d'accès.
Non, c'est effectivement pas simple d'accès. C'est pas un roman facile à lire. C'est pas un roman qui vous mettra bien. Mais je suis content de l'avoir lu parce que je n'aurais jamais lu ça sans cette émission. Et c'est super intéressant, quoi. Enfin, voilà.
Oui, il est super intéressant. Je pense qu'il me restera dans la tête parce que ouais, vraiment aussi. des tas de la façon dont elle coupe les phrases. Là, c'était pas le passage le plus poétique, mais il y a vraiment des passages extrêmement poétiques, extrêmement beaux, notamment d'un papillon qui traverse les joues du meunier, je crois, à un moment donné. Enfin, il y a, c'est vraiment très joli. Ouais, rien que pour les tournures de phrases, ça vaut le coup de le lire. Après, voilà, sachez que il faut que vous ayez une soirée super arrosée juste après pour vous remettre. Mais quand je dis arrosée, c'est juste plein de joie pour vous remettre en forme, quoi.
Yes, on est d'accord. Bon, voilà, moi c'est pareil, je suis content de l'avoir lu. Je peux pas dire que j'étais content de le lire quand même pendant
non, c'est galère. Pas, c'est pas joyeux.
Ça m'a filé le cafard en fait, hein, clairement. Mais la littérature, des fois, c'est ça aussi.
Mais
ça peut pas être que des trucs chiliens avec Cthulhu Fort Boyard, tu vois ça.
Voilà, exact. Oui, non, mais clairement. Mais après, ce que j'ai apprécié dans cette poésie aussi, parce que d'habitude, j'aime pas la poésie, ça me saoule.
Ouais.
Et mais là, la poésie a une véritable force.
Non, elle coule bien. C'est une vraie écriture poétique, quoi.
Oui, et elle atténue la violence de la situation. La poésie est utile à ce moment-là. C'est pas pour dire, genre, ouais, je sais maîtriser les mots. Non, c'est parce que, franchement, la violence de la situation est telle que la façon dont elle l'exprime. Tu vas pas te mettre à pleurer.
C'est exactement ça.
Tu vois, je repense par exemple au bouquin qu'on avait lu là tout de suite présentement, le terme m'échappe parce que je suis plus à 100%, mais c'est l'histoire des esclaves, de l'esclave noir qui assassine son enfant.
Beloved,
ouais. Bon, et ben là, franchement, j'ai éclaté en sanglots.
Oui.
Non, okay. Beloved... c'était trash. Il n'y avait pas de poésie pour calmer la chose.
Non, Beloved en fait était beaucoup plus mélodramatique, mais pas au mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'était Beloved était plus là pour te secouer dans tes sentiments et te remuer en fait et te retourner. Là, on n'est pas sur un roman comme ça. On est plus sur un roman qui décrit une situation en utilisant la poésie pour t'en faire comprendre l'horreur. Mais c'est pas un roman choc en fait. L'homme est un grand faisant sur la terre. Du moins, je ne l'ai pas pris comme un roman choc.
Non, effectivement, c'est pas un roman choc.
C'est très intime, en fait, comme littérature. Ouais. C'est très intime, c'est giga personnel, on l'a dit, c'est moitié autobiographique. Donc,
oui, c'est ça, c'est de l'ordre de l'intime. La poésie t'enveloppe dans une sorte de cocon où tu intègres la folie de l'homme qui ne comprend rien à sa vie, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui ne comprend pas les êtres qu'il y a autour de lui. Il voit pourtant qu'il y a une symbiose qui se crée, un lien qui se crée entre sa femme et sa fille et qui sont toutes les deux pour lui des prostituées. Mais il sait très bien, il se sent coupable aussi parce qu'elle se prostitue pour lui.
Mais oui, bien sûr.
Et là, c'est une force, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça assez puissant. Mais
ouais,
horrible,
ça, voilà.
mais
oui,
puissant.
C'est horrible. Mais même, tu vois, quand bien même il n'y aurait pas toute cette histoire de prostitution qui rajoute de l'horreur à l'horreur à l'horreur, en fait, basiquement, c'est l'histoire d'un mec qui travaille comme un damné, comme un forcené, pour des gens qui ne lui donnent pas ce qu'il veut, et pour rien, en fait. C'est vraiment, c'est Sisyphe, en fait. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais en fait, à la base, Windisch, il doit payer son passeport, enfin, il doit corrompre, en fait, un mec avec son passeport, en livrant en continu une grosse partie de ses récoltes, donc en s'appauvrissant, et en traînant comme une mule des immenses sacs de blé sur son dos, et en
pour
les déposant à un gars.
Pour éviter que sa fille soit prostituée, d'ailleurs.
Ce qui va arriver... ce qui va arriver, quand même, parce qu'en fait c'est le système qui veut ça, mais déjà de base on est sur quasiment une espèce de redite du mythe de Sisyphe, quoi. C'est-à-dire que en fait on le comprend nous en tant que lecteur, lui ne le comprend pas en tant que meunier, mais nous on le comprend
parce
en tant que lecteur
parce qu'il veut espérer réussir à s'en sortir sans passer par là. Il veut surtout pas imaginer que ça puisse être possible,
c'est
sinon,
exactement,
c'est pas la peine, il se flingue direct, il
mais,
va
mais
se
ce
moyer,
que je veux dire c'est que toi en tant que lecteur tu le sais très bien dès le début, vas-y avec tes sacs de farine, bien entendu que tes sacs de farine à la con ils vont pas te payer un passeport de rien du tout, en fait.
C'est clair.
Voilà, donc déjà de base c'est une tragédie, et une tragédie qui se rajoute sur cette tragédie, mais le fait que ce soit une tragédie de l'intime racontée avec de la poésie fait que t'as pas envie de vomir en permanence à chaque fois, quoi.
Non, c'est ça, c'est
mais
que
c'est
tu
pas
lis
le but, je pense,
ouais. Et après tu réfléchis à la situation, tu fais ouh, mais en fait, mais c'est waouh. Et par moments il y a des moments crus, notamment quand il y a la femme qui pratique l'onanisme, ou quand même quand Après, les scènes de sexe sont quand même relativement crues.
Ah oui, oui, par contre, c'est cru, oui.
Voilà. Donc, tout l'ordre, c'est ça qui est marrant, c'est que tout l'ordre de l'intime, toute la poésie tout est extérieur, parle des choses extérieures, mais quand on entre dans notre intimité à nous, donc, que nous, on considère comme extrêmement intime, donc forcément la sexualité, là, la sexualité est mise comme un moyen de paiement, et c'est hyper cru. Donc, j'ai trouvé ça aussi, ce contraste assez significatif, mais j'ai pas d'avis sur la question.
Voilà. Bah bon, je moi non plus. Mais en tout cas, enfin, sachez quand même, avant d'y aller, que c'est pas une lecture facile. Voilà, on vous a recommandé tout au long de cette saison de l'Appel de Catu des tas de bouquins rigolos, poétiques, joyeux, et tout ça. Donc n'hésitez pas non plus à aller vers des trucs plus fun si vous n'êtes pas dans le mood. Hein. On vous a décrit un peu par l'article tous les triggers possibles que vous allez potentiellement avoir en lisant L'homme est un grand faisant sur la terre. Donc voilà, n'y allez qu'en ayant conscience de ce dans quoi vous allez.
Voilà, mais sachez que ce bouquin existe et qu'il est vraiment d'excellente qualité. Et que c'est pas pour rien qu'elle a eu un Nobel, sérieusement. Enfin, y a des gars, tu les lis, tu fais « vas-y, pourquoi ?» Non, elle, franchement, oui, tu vois, elle a une capacité à ciseler le mot.
Ah oui, complètement.
Ouais. Wow,
c'est iconoclaste.
Ah ouais, là tu fais « ah oui, quand même ». Oui, là, quand même. Mais et tu vois, n'empêche, j'aurais pas fait cette émission. D'une part, j'y serais pas allé.
Moi non plus, j'aurais même jamais entendu parler
de ça. Si au cas où, par le hasard, il aurait fallu que je le dise ou quoi, j'aurais absolument rien compris et j'aurais pas forcément ressenti la puissance des mots qu'elle a fait. Qu'elle a utilisé, la façon dont elle a. Le mécanisme, enfin, franchement, c'est stylé quoi.
Eh bien, exactement pareil.
Même si, sachant que je suis toujours pas une experte en littérature et que les figures de style me passent au-dessus de 15 000 km. Mais
c'est pour ça qu'on fait cette émission, c'est qu'on n'est pas, justement, on n'est pas du tout des spécialistes et qu'on, c'est en tant que lecteur qu'on parle avec nos vécus de documentaristes, de bibliothécaires,
je sais pas comment s'appelle ton
métier en ce moment, voilà.
De courtière en groupement de crédit. Voilà. La chose c'est la plus grande blague de ma vie.
Courtière en regroupement de crédit. Incroyable. Enfin, ouais, non, c'est voilà, nous on est justement, il y a plein de démissions qui faites ou par des libraires ou par des universitaires ou par des spécialistes. Nous, voilà, on parle aussi d'une autre perspective et c'est pour ça qu'on est content de le faire.
Voilà, exactement. Et puis là, franchement, ouais, c'était. Tu vois, le Amstramgram, ouais. Pas beaucoup de pages, ça a super bien marché.
C'était bien.
Et voilà.
En parlant de ça, qu'est-ce qu'on va lire en septembre?
Mets l'émission en pause.
Non, pas forcément, on peut en parler. Regarde, j'ai ouvert le tableau, je vais te faire des propositions.
Je l'ai pas ouvert, quoi. Ok.
Si tu veux, je te fais des propositions. Donc, on va repartir sur un,
ça y est, je l'ai ouvert,
sur
bon.
Un monsieur. Ouais. Par exemple, moi, j'ai bien envie de lire Sous le soleil de Satan. Mais voilà.
Encore un Satan? Alors, attends.
Ah oui, c'est la saison Satan.
C'est de qui?
C'est de Georges Bernanos. On est littérature française du début du XXe siècle.
Ouais, ok. Ouais, 384 pages. Ouais, ça peut le faire.
Ça peut le faire. Alors après,
a des caméros en dessous et je me dis, bon, 1056 pages, littérature médiévale.
Oui, non, on va pas se faire avoir à chaque fois.
Pas cette année.
T'as mis pire, hein, Le rêve dans le pavillon rouge, 1696 pages. Tu veux qu'on aille là-dedans, la littérature chinoise classique
C'est vrai que c'est moi qui l'ai mis.
Ah, ou sinon, on a ni toi ni moi mis une étoile dessus, mais si on veut un truc fun, on pourrait. Du Dumas
hein?
Alexandre Dumas, c'est fun, il y a des aventures, il y a des bagarres et tout ça, Le Comte de Monte Cristo. Non, t'aimes pas par contre de Dumas.
Non, pas trop, non. Ça me cause pas, tu vois, ça me cause pas.
Petite Trois Mousquetaires,
non, ouais, non, mais... Alors attends, Bulgakov, il est fait, il faut que je me le mette dans une autre couleur pour que je puisse le repérer.
Jack London, ça se lit super bien en général.
C'est vrai que ça... Ouais, mais c'est pas un peu Tristoun?
Souvent, si.
Ouais, voilà, tu vois, c'est
pas le problème, bah voilà. Alors, sinon, on peut partir sur de la SF. Toi, t'as mis plein de trucs sur le Kim Stanley Robinson, Les 40 signes de la pluie. Je pense que c'est un pavé.
Ah ouais!
Parce que Kim Stanley Robinson, c'est toujours des pavés, mais je sais que ça se lit bien aussi.
Oui,
ah non, 356 pages, 356 pages, ça va.
C'est pas un truc justement sur la fin du monde apocalyptique, machin et tout.
Ah, c'est un truc de réchauffement climatique. Voilà.
Ouais, grave.
Eh ben, on part sur Les 40 signes de la pluie de Kim Stanley Robinson. Moi, c'est un auteur avec lequel j'ai une histoire giga contrariée. Donc, mais t'es toujours dit, il faudrait que je retente et il me faudrait une occasion pour retenter. Allez.
Go ou bien.
Ouais, et c'est un classique de la science-fiction, écrit en 2004, donc ça rentre dans nos critères.
Mais c'est pas voilà. pour rien que je l'avais mis, tu vois.
Ouais, non, non. Allez, eh ben, à la rentrée, on vous parlera de Kim Stanley Robinson et des 40 signes de la pluie.
Et ça tombe bien parce que moi, je vais commencer à dire quand il pleut.
Ah, et moi, je vais aller me faire à manger et après regarder le live du retour de jeudi. J'ai décédé, je travaille depuis 8h ce matin, je suis en non-stop.
T'as 10 minutes pour manger, dépêche-toi.
Non, bah, je vais pas, c'est pas grave, ils m'en voudront pas si je pends mon linge et que je mange en même temps que je les écoute, tu vois. Ça.
Ouais, je pense aussi.
Bon, ça marche.
Parfait. Bisous les zouzous.
Des
c'était
bisous
bien
les
sympa.
Zouzous.
Soyez heureux dans la vie, au maximum. Faites ce que vous pouvez pour l'être, en tout cas, même si vous l'êtes pas. Pardonnez-vous, de ne pas être heureux, parce que ça arrive aussi.
Donnez au Tipeee.
Ouais, c'est beaucoup plus problématique et c'est pas fou.
Mais moi, ça me rend heureux.
Ouais, voilà, rendez les amis heureux. Moi, vas-y. Et puis,
des bisous et on se retrouve à la saison prochaine. Bonnes vacances.
Bonnes vacances.
C'est sur le booking.
Ouais, non, mais...
Allez.